Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Je suis Omar Dermat, responsable de la rédaction et je suis en compagnie d'Elvana Touffa, qui est également membre de la rédaction. Bonjour Elvana.
Bonjour Omar.
On continue aujourd'hui avec la série de podcasts de Voix d'Exil, la série La vie après Voix d'Exil. Cette série met en lumière les anciens collaborateurs, rédacteurs, rédactrices de Voix d'Exil en éclairant leur parcours au sein de la rédaction et ce que cette expérience leur a apporté. Avec Elvana Touffa, nous recevons aujourd'hui notre troisième invité, Mamadi Diallo, originaire de Guinée, en Suisse depuis 2014. Il a été rédacteur à Voix d'Exil de juillet 2018 à juin 2020. Et pendant son temps à la rédaction, il a couvert plusieurs événements, parmi lesquels le Salon du Livre à Fribourg ou le Sommet Smile for Future en 2019 à l'Université de Lausanne. Il a également contribué activement à développer les podcasts de Voix d'Exil dans le cadre du partenariat avec la radio socioculturelle lausannoise Radio Django. Bonjour Mamadi.
Bonjour Omar.
Ça nous fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui à la rédaction.
Plaisir partagé.
Sois le bienvenu parmi nous.
Merci.
Bienvenue,
merci.
Cher Mamadi, alors te voilà de nouveau derrière le micro de la radio. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te rappelle des bonnes expériences? Qu'est-ce que ça te fait d'être de nouveau à la radio aujourd'hui?
Alors tout à fait, alors bien sûr ça me rappelle quand même de beaux souvenirs passés au sein des Voix d'Exil. Bien que cette fois je suis là en tant qu'invité, cette fois et non en tant que rédacteur, mais c'est assez étrange en tout cas de me retrouver devant un micro, là être un peu à la place des invités et puis à gérer un peu le stress, donc des interrogations, et c'est assez sympa, c'est assez enrichissant et puis c'est toujours un plaisir de revenir en tout cas dans les locaux de Voix d'Exil. Donc, de retrouver aussi certains visages, et puis de nouveau aussi, c'est toujours un plaisir. Ouais.
Est-ce que la radio t'a manqué?
Alors, c'est sûr que ça m'a beaucoup manqué, la radio, je l'avoue. Comme je l'ai toujours dit, c'est pas quelque chose que je ferais tout le temps, mais ça a toujours été quand même un plaisir. À chaque fois que il fallait faire mener une interview, c'est toujours quand même un plaisir de faire ce travail, parce que ça permettait justement de faire beaucoup de rencontres, donc de partager beaucoup d'expériences avec des invités, et donc de connaître plus en profondeur certains sujets d'actualité, donc sur la migration et sur la société. Donc c'était quand même un enrichissement qu'on ne trouve pas quotidiennement, en fait, voilà.
Ben, on va essayer le faire pas en interrogation, mais en fait en conversation. Il peut nous poser des questions aussi.
S'il vous plaît.
Alors, j'ai vu un peu ton parcours à Voix d'Exil et ce qui m'a impressionné, c'était en fait le choix des thèmes et ton approche positive de la vie. J'ai vu les articles que tu avais écrits. Peut-être c'est mon impression, mais je vois chez toi une manière, disons, optimiste, entre guillemets, de voir les choses quoi qu'il arrive. Est-ce que tu te reconnais dans mon description ou je me trompe?
Alors, tout à fait. C'est vrai que j'aime voir toujours les choses du bon côté. Donc, même si parfois il y a des mauvaises surprises ou en fait que je me retrouve en fait dans une situation délicate. Donc, c'est toujours bien quand même de regarder le bon côté des choses. Donc, comme on dit parfois, certaines choses n'arrivent pas par hasard. Et puis, comme le dit un dicton chez nous, pour pouvoir surmonter en fait une épreuve difficile ou un obstacle, il faut savoir faire face. Donc il faut faire face en fait à cette situation-là, donc pour pouvoir la surmonter. Donc parfois certaines situations difficiles en fait est une leçon donc de la vie. Donc ça renforce un peu le caractère. Donc c'est un enseignement que moi je suis toujours prêt à mener, quoi, en fait. Mais bien sûr, on est d'accord que je ne souhaite pas avoir tout le temps des mauvaises surprises.
Donc, oui, c'est pour ça.
C'est clair, mais quand c'est là, voilà, on ne peut pas faire autrement que de lutter contre, en fait, pour venir à bout de cette situation.
Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es malvoyant. Ce qui te limite sans doute dans certaines actions du quotidien. Un handicap, est-ce qu'une limite?
Pas dans toutes les situations, non. C'est sûr que, par exemple, maintenant avec mon handicap visuel, je ne pourrais pas être conducteur de bus. Ça c'est sûr, ce n'est pas une profession que je pourrais faire. Par contre, une limite, je vais dire par exemple dans le cadre d'un travail de l'administration, non. Par exemple, mon handicap, moi depuis tout petit, j'ai toujours rêvé vers les arts martiaux. Et je pensais que, en fait, avec mon handicap visuel, en fait, je pourrais pas mener, en fait, cette formation. Ça a été totalement le contraire quand j'ai rencontré Changchi Academy, donc un club, en fait, de kung-fu.
Oui.
Et là, voilà, je me suis inscrit. J'avais d'abord parlé avec la prof. Je lui ai dit, mais voilà, moi, je suis malvoyant. Est-ce que vous pensez que ça serait possible, en tout cas, de me former? Elle me dit, il faudrait qu'on essaye. Et voilà, donc j'ai fait la formation et puis maintenant, voilà, je suis ceinture rouge, première barrette de Kung Fu avec la médaille de bronze.
Étonnant.
Alors effectivement, Mamadi, moi j'ai eu l'honneur d'assister à une de tes performances de Kung Fu, hein, de ton école de Kung Fu, tu m'avais invité à l'époque.
Oui, tout à fait.
Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer dans l'espace, pour sentir l'espace quand on est malvoyant, enfin, comment est-ce qu'on se situe? Et parce que les mouvements sont rapides, il y a des personnes autour de soi, comment ça fonctionne? Est-ce que tu arrives à nous expliquer en quelques mots?
Alors, l'apprentissage en fait des arts martiaux, concrètement, on dit que, bien sûr, quand on a la vue, c'est essentiel. Mais ça ne se base pas seulement qu'à ce qu'on voit, surtout dans l'apprentissage en fait, des arts martiaux. Souvent, comme le répète la prof, c'est toujours en fait, le réflexe qui compte beaucoup. Par exemple, dans un combat, l'un des adversaires qui a plus de réflexes a plus d'avantages en fait, dans un combat. Parce qu'il ne se sert pas seulement de la vue. Peut-être même que la personne peut perdre la vue pendant le combat, peut toujours continuer à mener ce combat-là. Et donc, pour se repérer aussi dans l'espace, donc dans le confort, en fait, on apprend toujours le chi, donc l'énergie en fait, qui nous entoure, donc aller chercher l'énergie qui nous entoure, faire apprendre les mouvements. Donc, il y a plusieurs étapes en fait, pour pouvoir acquérir en fait, les positions. Donc, la première des choses, donc, on apprend les positions de base, donc par exemple de Kung Fu. On essaye en tout cas de maintenir, en fait, de bien apprendre en fait, ces positions-là. Donc, c'est la phase squelette, en plus, c'est vraiment être l'équilibre. Donc, apprendre en fait, à rester, à maintenir l'équilibre. Et plus, en fait, on s'entraîne avec... Une fois que ces mouvements-là sont acquis, plus tu t'entraînes, plus tu gagnes en rapidité, plus tu gagnes en puissance, et plus tu gagnes aussi en improvisation. Donc, parfois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir les yeux donc, pour faire des mouvements. Et donc, tu te concentres, en fait, en ce que tu fais, les mouvements que tu dois
accomplir,
justement. Et ensuite, ça devient beaucoup plus facile. Alors, au départ, je ne dois pas le cacher, j'ai eu de la peine. Hein. J'ai eu vraiment de la peine parce que je n'arrivais pas, bien sûr, à voir. Et je ne me suis pas appuyé sur le peu de vision que j'ai. Donc, à chaque fois, je m'approchais, en fait, à la prof qui venait ou vers moi, qui prenait, qui me touchait, qui me traînait la main. Voilà, il faut le faire, en fait, des mouvements circulaires ou il faut le faire de manière un peu plus rectangulaire. Donc, elle m'expliquait jusqu'à ce que j'ai acquis la position de base. Et donc, mais maintenant, il suffit seulement qu'elle me dise, ah non, il faut faire la flèche arrière avec la montre religieuse. Donc, là, je sais tout de suite de quelle position elle parle. Donc, j'ai même pas besoin qu'elle me le montre. J'arrive maintenant à l'accomplir, en fait, sans difficulté.
Mais ça t'aide aussi, par exemple, dans le quotidien? Est-ce que les arts martiaux, la formation t'a aidé
à affronter des épreuves aussi.
Oui,
alors
la malveillance, mais aussi l'exil, enfin, je veux dire, non?
Oui, alors tout à fait, parce que les arts martiaux, en fait, c'est quelque chose qui nous renforce, qui apaise aussi, dans le sens où que parfois, comme la première leçon des arts martiaux, les arts martiaux, c'est qu'on n'apprend pas pour se battre, mais plus pour se défendre. Et pour se défendre, pas du moment qu'on t'attaque, en fait, il faut tout de suite réagir. Non, le but est que tant qu'on peut éviter, en fait, une bataille, voilà, donc une dispute, il faut l'éviter. Mais quand t'as pas réellement, t'es dans une situation où t'as pas vraiment le choix, c'est là que tu peux utiliser, en fait, ton art martial, en fait, pour te défendre. Donc, c'est un peu le fait dans la vie quotidienne, quand quelque chose de mauvais ou t'arrive, en fait, c'est le fait de pouvoir être réceptif, donc de pouvoir gérer déjà la chose, réfléchir à comment, en fait, affronter, comment, en fait, trouver une solution à cette situation-là. Donc, c'est un enseignement, en quelque sorte, de l'art martial. Comme le dit un proverbe dans les arts martiaux, si tu vends ton adversaire, tu es fort, mais si tu te vends toi-même, tu es puissant.
Raconte-nous les moments forts de ton parcours de Guinée à la Suisse. Comment as-tu vécu cet asile?
Ça n'a pas été évident. Le parcours, en fait, comme tout autre migrant venu en Suisse. Alors, moi, je suis passé par l'Italie où j'ai subi aussi des interventions. Tout ça, c'était dans le cadre, en fait, des soins, donc pour les yeux, et en plus de pouvoir m'y installer pour mon avenir, parce que, voilà, en Guinée, il n'y a pas d'institution comme là où je travaille actuellement pour les personnes malvoyantes, donc il n'y a pas d'adaptation. En fait, les personnes malvoyantes, en un mot, en fait, ils n'ont pas de place dans la société.
Oui.
Voilà. Et donc, ça a été un peu le but de mon aventure. Donc, je suis passé par l'Italie où j'ai subi des interventions, mais qui ne se sont pas bien déroulées. Et ensuite, vu que ça n'allait pas bien du tout en Italie, finalement, donc je suis revenu en Suisse, parce que j'étais déjà passé en Suisse deux fois pour les soins. Et je suis revenu en Suisse, j'ai fait cette fois une demande d'asile pour pouvoir m'y installer. Alors, le parcours, il a été long et rude, on va le dire. Mais finalement, après une année et demie d'attente, en fait, j'ai eu une admission provisoire parce que je répondais pas aux critères, en fait, d'une admission d'asile, donc de réfugié, parce que c'est ce qui est compréhensible, parce qu'en Guinée, il n'y a pas de guerre. Donc, c'était plus au niveau sanitaire. Et ensuite, quelques années après, donc, j'ai déposé une demande pour le permis B, vu que j'ai commencé un apprentissage et que j'avais fait des programmes d'occupation, pas mal de bénévolat, des activités. Et puis, je me suis servi de ça, en fait, pour faire la demande. Et ça a été aussi pas évident, donc ça a été très long, la procédure. Et ça a fini par payer, donc j'ai pu avoir le bout du tunnel. Donc j'ai obtenu mon permis B l'année dernière.
Oui, justement, ouais. Je voulais te demander, mais tu as répondu la question, en fait, est-ce que ça aboutit, en fait?
Oui, alors ça a fini par aboutir tout à fait.
Ça a eu des résultats positifs.
Oui, ça a eu des résultats positifs, comme quoi il faut jamais abandonner, il faut toujours y aller jusqu'au bout, en fait, pour au moins voir on va dire en quelque sorte le bout du tunnel. On ne peut pas savoir après le bout du tunnel si ça reste positif ou ça reste négatif, mais je conseille toujours quand même de se battre, de ne jamais lâcher prise. Voilà.
Oui, c'est un bon conseil. À ce moment-là, moi aussi, je ne peux pas me permettre de baisser les bras. Je ne vois pas la fin du tunnel, mais quand même, j'ai la confiance que... Je vais y aller bientôt.
Oui, tout à fait.
Alors, tu es parmi les personnes qui ont contribué à Voix d'Exil au cours de ces plus de 20 ans d'activité, et nous sommes très heureux de t'accueillir dans cette série. Peux-tu partager avec nous l'expérience de ta participation à ce média?
Alors, j'ai vraiment adoré les deux années passées à Voix d'Exil, mais franchement, ça a été aussi une expérience qui a permis à me dépasser, donc à me surpasser aussi. Parce que c'est vrai que quand on parlait aussi de l'animation radio, par exemple, l'une de mes moments préférés à Voix d'Exil, c'est vrai quand je disais une fois avec Omar qui me pose la question, mais comment tu vas faire en fait pour poser toutes ces questions, parce qu'il faut que tu aies ton appareil de lecture pour pouvoir lire les feuilles et passer à la radio. Et puis cela, j'ai dit, mais non, je vais mémoriser toutes mes questions. Donc, c'était un peu ça. Alors, au départ, bien sûr, je suivais en fait la grille, donc dans ma tête. Et plus le temps passait, plus j'étais à l'aise en fait pendant l'interview. Donc, quand je menais l'interview. Et donc, j'arrivais quand même à improviser. Donc, ça a été exactement une formation continue. Et justement, c'est l'une de mes moments forts, justement, comme l'a dit Omar au tout début, donc le salon du livre à Fribourg, où j'ai pu rencontrer, justement, on a pu rencontrer Alain Berset, j'ai pu interviewer Dick Marty, l'ancien conseiller d'État, Jacques Dubochet, donc des écrivains, et puis c'était vachement bien, vachement intéressant. Et grâce aussi à Voix d'Exil, quand même, j'ai pu quand même acquérir aussi des compétences en fait dans d'autres domaines, donc dans la rédaction par exemple, parce que moi j'ai, voilà, bien sûr que j'ai eu mes problèmes à l'âge de 13 ans et demi, donc ma malvoyance c'est pas de naissance. Et après ces 13 ans là, à l'âge de 13 ans, donc j'ai arrêté les études jusqu'à mon arrivée en Suisse. Et grâce à Voix d'Exil, en tout cas, j'ai pu quand même retrouver
l'envie de recommencer à apprendre.
Oui, alors c'est vrai que j'avais toujours l'envie de recommencer, mais j'avoue que Voix d'Exil, par exemple, pour pouvoir rédiger quand même un article, il faut quand même un certain niveau en français. Alors moi, je suis déjà francophone d'origine, mais j'avais quand même perdu un peu la maîtrise en fait d'une rédaction, donc d'une dissertation, de ce genre de truc. Et donc Voix d'Exil quand même a beaucoup aidé à débloquer en fait cette partie qui était déjà enfouie. Et donc en parallèle de Voix d'Exil, j'ai fait un stage de mesure de capacité pour suivre un apprentissage, et donc j'ai réussi quand même à le passer aussi grâce à cette formation.
Quelle a été ta contribution? Donc, c'était plus l'animation à la radio et les articles aussi. Mm-hmm. Tu peux nous dire quelque chose en plus par rapport à la radio, les animations que tu as faites, si tu as envie de partager avec nous, ou quelques articles que tu as écrits?
Alors, je me souviens bien que mon premier article, c'est qui, en tant que, bon, maintenant, vu que je suis invité, je pense que je peux me lâcher.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter?
On va demander
une surprise. je me souviens bien que mon premier sujet, en fait, à ça, je n'oublierai jamais, ça concerne justement la fouille du téléphone portable des requérants d'asile. Donc, une initiative de l'UDC, donc, qui voulait que les personnes, les requérants d'asile, en fait, qui viennent déposer leur demande d'asile, fait que les téléphones soient saisis pour fouiller et puis contrôler la véracité de leur histoire. Et donc, j'ai dit, non, mais sérieusement, il n'y a plus de limite, quoi, en fait. Donc, on n'a plus de vie privée, il y a certaines parts. Donc, c'est un peu, je trouve que c'était un peu intrusif, quoi, en fait. Même pas un peu, c'était trop intrusif. Et c'est un sujet qui m'a énormément touché, choqué, même, mais vraiment choqué, cette initiative-là. Ça m'a beaucoup choqué, parce que je me disais que... Il y a plusieurs manières, en fait, de vérifier la véracité, comme ils l'ont toujours fait depuis des années. Mais là, c'était quand même, c'était quand même une idée extrême, en fait. parce que je me disais qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est des humains, quoi. En fait, ils ont quand même besoin en fait, d'une certaine dignité, quoi, en fait, parce que là, parfois, c'est même ça qui est un peu enfant.
Oui, même si des migrants, ils ont des droits.
Voilà, donc ils ont des droits, et puis donc, c'est un peu parfois une violation des droits. Et je me souviens bien, comme l'a dit aussi la juriste lors de l'interview, c'est une des choses... effectivement, qui peut éventuellement être utilisé en tant que dernier recours dans du pénal. Donc, ce n'était pas le cas. Donc, justement, c'était quelque chose d'exorbitant. Et puis, après, bien sûr, il y a eu d'autres occasions. Tout me revient pas, mais voilà, j'ai eu l'occasion justement d'interviewer aussi le fondateur de l'association La Marmite, donc le monsieur avec lequel j'ai eu l'occasion aussi de travailler en fait avec ses collaborateurs, donc grâce auquel en fait j'ai eu la chance, une très grande chance aussi d'intégrer une équipe de théâtre au théâtre de Vidi, donc c'était avec Angélica Lidl.
Très bien. Donc, si je comprends bien, ton expérience de théâtre à Vidi est partie d'une interview, c'est ça ? Est-ce que c'est parti de...
Alors, je connaissais déjà... alors, j'ai d'ailleurs fait en fait un article sur Voix d'Exil par rapport à ce parcours-là. Disons que le fait, en quelque sorte, le fait de passer à la radio, donc d'être rédacteur, animateur à la radio... Ça m'a quand même aidé justement à être figurant sur scène, donc de voir des centaines de spectateurs. Quoi.
Ça t'a ouvert des possibilités en fait.
Exactement, donc ça m'a ouvert aussi des possibilités, parce que c'est vrai qu'avant, avant que je ne sois à Voix d'Exil, si on m'avait demandé d'être figurant devant des centaines de personnes, c'était probable que je dise non, parce que c'est pas évident d'être devant de s'adresser en fait de parler devant le public, et Voix d'Exil quand même a débloqué, mais vraiment tous ces a même quasi effacé en fait cette partie de la timidité, parce que là même dans mon travail actuel, je me retrouve en fait devant les collaborateurs à présenter le service. Et donc et ça c'est grâce aussi à cette expérience de la radio à Voix d'Exil.
Tu as suivi la formation multimédia de Voix d'Exil qui forme les rédacteurs et rédactrices aux techniques de rédaction de journalisme, à la photographie et à l'expression publique. Est-ce qu'elle t'a donné le goût de journalisme ?
Alors, pas en tant que photographe.
T'as pas perdu ton humour, hein, Mamadi.
Oui, alors, c'est vrai que pendant la formation, j'ai déjà tout là, pour la photo, ouais, j'étais un peu le rédacteur quand même, un peu. Parce que j'étais là, oui, mais bon, d'accord, on comprend bien que la photo, ça ne sera pas fait pour moi. Hein. Moi, les photos, c'est... avec mon téléphone, ça me suffit. Et donc, mais rédacteur, oui et non. Pas dit plus tôt. Je m'explique, parce que alors c'est vrai que être journaliste, c'est un travail mais super intéressant. Comme je disais au tout début, ça permet quand même de rencontrer quand même pas mal de monde. Et moi j'adore en fait le rapport humain, donc être en contact avec les gens, donc de rencontrer de nouvelles personnes, donc de partager de nouvelles expériences, et puis d'être dans l'actualité du jour, donc de connaître un peu les nouvelles du monde. Et donc c'est quelque chose quand même qui est hyper enrichissant, mais la partie un peu que je ne vois pas vivre ça dans ma vie de tous les jours, c'est quand même un peu stressant, en tout cas le journalisme. Hein. Parce que 10 minutes en fait d'interview, mon Dieu, combien de temps de préparation en fait il faut mener. Et puis ensuite, il faut être tout le temps dans l'actualité. Donc un sujet d'actualité, on ne peut pas se permettre en fait de le sortir des jours après. Donc c'est vraiment à la minute, donc qu'il faut réagir. Et cette gestion de stress, je ne sais pas si je serais capable de la gérer au quotidien. Voilà, donc.
As-tu un souvenir qui t'a marqué pendant le temps passé ici?
Oula, alors, il y a eu tellement de souvenirs. Il y a eu beaucoup de souvenirs, je sais pas, quelque chose même de drôle.
De drôle.
Voilà, de drôle. Et éventuellement, c'était lors de l'interview à l'UNIL, donc pour le réchauffement climatique.
Lors du sommet Smile for Future,
exactement,
en 2019.
Exactement,
oui.
Lionel. Alors ça, c'est juste une petite anecdote, parce que voilà, les rédacteurs, voilà, il fallait être sur son taquet, quoi, en fait.
Voilà, parce qu'il s'agissait d'un congrès, hein, avec plein de jeunes.
Exactement, d'un congrès, donc, avec plein de jeunes, vu qu'on est représentant.
Ça donne de stress, je pense.
Ouais, alors, il y avait le stress, mais c'était pas ça, parce que j'avais quand même l'habitude un peu de gérer ce stress-là, vu que ça faisait déjà une année que j'étais, plus d'une année que j'étais à Voix d'Exil. Et puis, voilà, je devais quand même couvrir l'événement, donc la radio, et puis... remarque, et voilà, il faut venir, vraiment, c'est, bien sûr, on est l'ambassadeur de Voix d'Exil, on doit représenter Voix d'Exil, et puis alors, c'était pendant la canicule, donc hyper chaud, je me mets mais vraiment sous mon 31, et puis j'arrive, je vois les autres en short, des journalistes en t-shirt, là j'ai dit, non mais Omar, la prochaine fois.
Je l'ai reconnu.
Je crevais de chaud. Alors, il y a un
c'est
rédacteur.
C'est vrai que t'étais super bien sapé.
Voilà, exact. Et puis, il y a un rédacteur qui me dit, mais Mamadi, si tu voyais tous les autres personnes qui t'entourent, là, t'es habillé comme un ministre. Et puis, je suis là, j'ai dit,
justement,
oui, mais bon, mais là, du coup, je vais quand même demander un dédommagement parce que là, ça ne va pas. Donc, oui, alors, je me suis quand même beaucoup amusé avec... avec l'équipe, donc c'était une équipe chouette, une très belle équipe, donc bien diversifiée, donc il y avait cette diversité. Comme je disais Omar, même avant la rédaction, qu'en est-il en fait, j'ai posé la question de qu'en est-il en fait de l'équipe actuelle, parce que c'est super intéressant le fait qu'à mon époque, à Voix d'Exil, donc on avait un vidéaste, on avait un photographe, on avait... un ancien journaliste, on avait quand même un ancien banquier. Donc, c'était tellement mélangé. Donc, c'était quand même des expériences, en fait, qu'on se partageait. Et donc, mais franchement, je suis sorti de Voix d'Exil avec la valise pleine.
Alors, tout à fait, c'est par rapport à cette question que je vais faire maintenant. Si on partage ton temps, peut-être avant... ou pendant Voix d'Exil et après Voix d'Exil, à quoi ressemble ta vie après Voix d'Exil?
Alors, actuellement, disons que, grâce à Dieu, en tout cas, j'ai jamais été inactif. Donc, c'est en étant même à Voix d'Exil que j'ai eu ma place à l'apprentissage. Donc, comme je disais, Voix d'Exil, ça m'a beaucoup formé. Mais vraiment, et donc dans le domaine administratif, j'ai pu faire en fait mes démarches. Bien sûr, j'ai été aidé par les assistants sociaux, par les conseillers en emploi, mais le travail à Voix d'Exil m'a quand même permis de faire aussi mes propres démarches, donc de faire de la correspondance commerciale, donc de rédiger des demandes. Et ça, j'étais capable. Donc, en étant à Voix d'Exil, en parallèle, j'ai été aussi stagiaire à la ville de Lausanne. Donc, dans un service de coordination à l'accessibilité universelle de la ville de Lausanne, pendant 2 mois. Donc, c'était pendant la période du Covid. Et suite à cela, en fait, j'ai obtenu en fait ma place d'apprentissage à la Fondation Asile des Aveugles. Donc actuellement, je suis en dernière année de formation emploi et de commerce, donc à la Fondation Asile des Aveugles. Et jusqu'ici, tout se passe super bien. Et je retrouve justement un peu de Voix d'Exil comme je...
Oui, en fait, on n'a pas beaucoup mentionné en fait le Covid. Et maintenant que je me souviens, le temps que tu as fini ton expérience à Voix d'Exil, moi j'ai commencé, disons, c'était septembre 2020. Est-ce que ton expérience à Voix d'Exil t'a aidé pour l'intégration socio-professionnelle ici en Suisse?
Clairement, oui. Ça a été l'une des... Oui, ça a été l'une des activités qui ont favorisé l'intégration justement. Avant Voix d'Exil, bien sûr, j'avais fait du bénévolat, un temps de bénévolat à l'espace Mosaïque. Donc, une structure en fait de l'appartenance. Et en parallèle aussi, j'avais intégré un programme d'occupation, donc en tant qu'assistant pédagogique à l'EVAM. Suite à cela, voilà, j'ai commencé à donner aussi des cours en tant que bénévole dans une association, l'association Palabre, donc à Lausanne pendant 3 ans. Et je suis aussi des formations justement au Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue, des formations d'utilisation en fait de l'ordinateur, des logiciels, mais l'utilisation en tant que personne malvoyante. Aveugle, et suite à cela, voilà, j'ai eu une année de stage. Après, bien sûr, voilà, j'ai commencé à être rédacteur à Voix d'Exil. Donc, oui, Voix d'Exil, ça a été quand même l'une des services importants à favoriser mon intégration en Suisse.
Ça fait du bien à l'entendre.
Ça fait du bien d'entendre.
La Suisse est un pays très multiculturel avec 4 langues officielles, une grande diversité de populations, de traditions et de cultures. Aurais-tu des conseils à donner à une personne migrante qui vient d'arriver ici?
Alors, moi, par rapport à mes propres expériences, alors déjà, quand on arrive dans un pays étranger, je me dis, c'est de se poser la question d'abord, pourquoi on est là? Et une fois en fait qu'on a la réponse en fait à cette question, le combat, la lutte devient plus facile à mener. Donc moi j'étais là, je me dis voilà. Alors premièrement, je peux plus résider chez moi à cause de mon acuité visuelle et de mon problème de santé. Et donc je suis là non seulement pour les soins et pour préparer aussi mon avenir, donc mon futur. Et là. Depuis, voilà, donc je me suis quand même beaucoup investi. Peu importe les difficultés, les obstacles, comme on le disait tout à l'heure, donc il faut jamais lâcher prise. Il faut tout le temps lutter, mais vraiment lutter. Il faut jamais abandonner parce que ça peut, pour certains, ça peut prendre des années, pour certains, ça peut prendre des mois, et pour certains même c'est immédiat. Mais donc, peu importe, il faut jamais se dire pourquoi moi. Il ne faut jamais se poser la question parce que c'est une réponse à laquelle tu n'auras jamais la réponse. Voilà,
ouais.
Parce que chaque personne a sa chance, chaque personne a son quotidien, chaque personne a sa manière, sa volonté, donc son courage. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est vraiment lutter jusqu'au bout. Quoi.
Oui, chaque jusqu'au personne s'accroît.
Ouais. Tout à fait.
Très bien. Un grand merci, Mamadi, pour ton témoignage. Un témoignage très riche, très fort. Ne jamais lâcher et toujours lutter. Et je retiens aussi ta citation. Si tu vins ton adversaire, tu es fort. Si tu te vins toi-même, tu es puissant. Un grand merci pour ton témoignage et d'avoir participé avec nous à ce podcast. Je le rappelle, tu as été rédacteur à Voix d'Exil de juillet 2018 à juillet 2020. Un grand merci également à Elvana Touffa pour cette interview. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet en laissant un commentaire juste en dessous ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Un sujet à retrouver sur voixd'exil.ch.